dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, et à partir du verset 1. Donc le début de l'Apocalypse, alors que jeudi soir, nous verrons la fin de ce livre. Mais seulement quelques versets. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles. Amen. Et c'est le verset 3 qui arrêtera particulièrement notre attention ce matin. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. À 7 reprises dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons cette affirmation, cette proclamation, qui est aussi comme une interpellation à celui qui entend cela. Heureux celui qui, heureux celui qui. Savons que le chiffre 7 représente dans l'Apocalypse en particulier la perfection, la complétude de quelque chose et son importance. Le bonheur annoncé ici à 7 reprises dans ce livre est donc un grand bonheur, un bonheur parfait, complet, et qu'il mérite donc que nous le considérions avec la plus grande attention. D'autant que nous sommes, n'est-ce pas, bien assoiffés de bonheur. Nous arrêterons donc ce matin sur cette première annonce de bonheur, du bonheur promis, ainsi que nous l'avons lu dans ce verset 3. Et je vous proposerai une réflexion sur les points suivants. Premièrement, quels sont ceux qui peuvent être dits heureux? Quelles sont les conditions nécessaires à ce bonheur? Deuxièmement, de qui vient ce bonheur espéré? Troisièmement, qu'est-ce qui permet à ce bonheur d'apparaître, de se développer, de perdurer? Quatrièmement, enfin, en quoi consiste ce bonheur? Mais nous ne traiterons ce matin que les deux premiers de ces quatre points, réservant à une autre occasion les points 3 et 4. Tout d'abord donc, qui peut être heureux? Deux situations sont évoquées ici qui permettent l'accession au bonheur. Est heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie, sont heureux ceux qui entendent et obéissent. Alors nous pouvons, nous devons peut-être préalablement nous demander ce qu'est cette prophétie dont il est fait mention ici. Il s'agit manifestement du message que Jean a reçu et qu'il commence ici d'exposer. La prophétie, c'est en fait tout le livre de l'Apocalypse, tout le message de ce livre, mais plus largement tout le message de l'Évangile, et nous pouvons le dire de l'Écriture tout entière, que l'Apocalypse vient comme couronner en même temps que résumer et affirmer. Est heureux donc celui qui lit ou celui qui donne lecture de cette prophétie. Il semble qu'il faille ici entendre celui qui, par la lecture, communique aux autres cette belle prophétie. Bien sûr, le lecteur est déjà heureux pour lui-même lorsqu'il prend connaissance de ce message, soit qu'il le découvre, soit qu'il le redécouvre et se le remémore. C'est une chose heureuse que de pouvoir prendre la parole et la lire. C'est un privilège en même temps qu'une saine discipline. Pensons à cela, à ce privilège que nous avons, dont nous jouissons en possédant nos Bibles. Combien d'anciens croyants au cours des siècles ont dû se contenter d'échos espacés, de lectures entendues qui ne pouvaient être fréquentes, régulières, quotidiennes. Lorsque nous entrons dans certaines églises magnifiques avec ces vitraux qui disent quelque chose de l'histoire biblique, nous pouvons admirer, mais nous dire aussi, mais combien cela devait manquer de ne pouvoir s'approcher directement du texte de la Bible. Ne gaspillons pas donc notre chance. Profitons au contraire de cela pour lire et relire la parole, pour l'étudier, pour nous en nourrir, pour la vivre. Sachons la prendre pour ce qu'elle est, la parole de Dieu, le message de Dieu pour les hommes, pour nous. Puissions-nous ne jamais la lire en oubliant sa richesse, sa valeur éternelle. Ne méprisons pas, ne négligeons pas un si riche trésor. Alors oui, nous pouvons lire beaucoup d'autres livres, et beaucoup sont de grande valeur, mais ne laissons pas notre lecture d'autres livres nous priver du temps consacré à la lecture de ce livre unique qu'est la Bible, la parole de Dieu. De même pour nos autres activités, vivons-les pleinement, mais sachons réserver le temps utile à la lecture biblique. Peu importe que ce soit le matin ou le soir, dans la journée, au cours de la nuit, dans notre chambre ou dans le métro, peu importe, mais n'oublions pas de lire la parole. Usons nos Bibles, pratiquons-les, vivons avec elles. Heureux celui donc qui lit cette prophétie, cette parole de Dieu pour lui-même. Mais heureux celui qui donne lecture de cette prophétie. Heureux, dans les temps anciens de l'Église primitive, celui qui lisait pour ses frères qui n'avaient pas à leur disposition les textes sacrés. Heureux ceux qui aujourd'hui donnent lecture publique d'un extrait des messages de Dieu. Le prédicateur, un dimanche matin ou le dimanche soir, est heureux de lire à ses frères un extrait de la parole. Il reconnaît comme un privilège d'être à ce moment celui qui fait entendre un extrait de la révélation divine. Et il a parfois le réconfort de savoir que, quelle que soit l'insuffisance de ses propres paroles, l'auditeur aura au moins entendu quelque chose de juste et de bon dans le simple fait d'avoir lu la parole de Dieu. Heureux est celui qui s'efforce de commenter la prophétie, ce message que les hommes doivent entendre, comprendre et recevoir. Mais est heureux aussi celui, vous et moi, qui dans sa vie quotidienne s'efforcera de donner lecture des paroles de Dieu au cours des rencontres qu'il vivra avec ceux qu'il fréquente. Alors certes, il n'est pas toujours possible d'ouvrir sa Bible et d'en lire un extrait aux personnes que nous pouvons rencontrer ici ou là. Mais il est possible de se faire l'écho des paroles divines. Il est possible de partager ce que nous avons reçu et ce que nous connaissons. Il est possible de parler du Christ Sauveur à des hommes pécheurs, fondant nos paroles sur la parole de Dieu. Pour ce faire, il nous la faut bien connaître, nous en nourrir nous-mêmes régulièrement. Et donner lecture de la parole, ce peut certes être un programme ambitieux, mais nous est-il demandé moins? C'est aussi vivre en témoin fidèle et exemplaire. L'apôtre Paul pouvait dire à ses frères, « Imitez-moi comme moi-même, j'imite le Seigneur. » Dans cette imitation sincère, profonde, humble, nous pouvons donner quelque peu lecture à ceux qui nous entourent de quelque chose venant de Dieu. Et nous connaissons des chrétiens dont la vie parle de Dieu, dont la vie parle de Jésus-Christ, dont les actes sont comme un commentaire, imparfait encore, mais déjà exemplaire de l'amour du Seigneur. Heureux celui qui donne lecture des paroles de la prophétie. Heureux ceux qui entendent et qui obéissent. Celui qui est exposé à ces paroles de Dieu est heureux pour autant qu'il sache en faire son profit. Heureux celui qui entend. Ce sont des choses simples que celles-là. Est heureux celui qui entend ces belles choses. Point besoin pour être heureux, pour être véritablement heureux, de dépenser beaucoup d'argent ou d'avoir beaucoup d'argent et de le garder. Point besoin d'entrer à Polytechnique, point besoin d'être dans des circonstances favorables, privilégiées, point besoin d'être en vacances sur une île, point besoin de quoi que ce soit, point besoin véritablement du soleil, même si nous ne rejetons pas une belle journée ensoleillée. Heureux tout simplement celui qui entend les paroles de Dieu. Il y a beaucoup de choses que l'on peut entendre. Certaines sont belles, bonnes, bienfaisantes, telle musique, tel chant d'oiseau, tel murmure paisible de ruisseau, tel propos tendre d'affection, telle nouvelle heureuse. Il en est d'autres à l'inverse qui sont mauvaises, dures, perverses, auxquelles l'on est parfois exposé malgré soi, auxquelles parfois, par folie, l'on s'expose soi-même. Il est bon d'être exposé à entendre cette parole de Dieu, nous pourrions dire comme les enfants, cette trop belle parole. Il n'est rien qui soit plus important d'entendre que cette parole-là. Mieux vaudrait être sourd à toute chose et entendre cette parole qu'être sourd à cette parole et d'entendre les plus beaux messages du monde. Pour entendre, il faut écouter. Il faut se placer dans des conditions qui permettent cette écoute. Il faut faire taire d'autres voix, d'autres bruits. Il n'est pas possible de bien entendre si l'on reste trop occupé par d'autres choses accessoires. Est-ce que, même à l'église, le dimanche matin ou le dimanche soir, je sais écouter vraiment? Je sais pour cela mettre de côté mes préoccupations, mes soucis, même parfaitement légitimes. Ou est-ce que je reste trop préoccupé de moi-même, de ma vie, pour entendre ce qui est dit? Est-ce que je sais mettre du temps à part pour écouter et entendre la parole? Comment entendrai-je si je ne sais me mettre à l'écart des bruits de la vie, des bruits de ma vie, pour entendre la voix, pas toujours sonore, bruyante, de Dieu? Ne sont pas réellement heureux ceux qui s'orientent pour entendre d'autres messages, non plus que ceux qui s'assourdissent pour ne rien entendre, qui risqueraient de venir remettre en question leur vie même. Heureux ceux qui entendent la parole, heureux ceux-là, seuls heureux ceux-là. Mais heureux ceux qui obéissent. Bien sûr, il ne suffit pas d'entendre, il faut aussi obéir. C'est là une constante dans la parole de Dieu, que cet appel à l'écoute et à l'obéissance. La connaissance elle-même ne suffit pas. Non plus que l'exercice formel de comportement particulier, c'est l'obéissance sincère, l'obéissance du cœur qui est demandée. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, dit Samuel au roi Saül. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Entendre sans être prêt à obéir n'a pas de valeur. Lire la parole, l'entendre, sans chercher à y obéir, ne mène certainement pas au bonheur et ne conduit pas à l'approbation de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une proposition optionnelle. J'écoute, je lis, j'écoute, je retiens ceci ou cela en fonction de mes goûts, de ce qui me convient ou pas. Non, cette parole est plus exigeante. Elle demande la compréhension, l'écoute, mais l'obéissance effective, réelle. Lisez, écoutez, obéissez. Alors l'intelligence n'est bien sûr pas à rejeter, non plus que les facultés que Dieu nous a données pour que nous comprenions véritablement le sens de ses paroles. Ce n'est pas une obéissance automatique, pourrions dire imbécile, qui est demandée. C'est une obéissance nourrie de connaissances, de réflexions, soutenue par l'Esprit de Dieu. C'est cela qui doit être notre objectif. Mais que dit l'Écriture? Ça doit être notre préoccupation constante. Et cela suppose réflexion, étude, connaissance, exposition à la parole. Tout cela menant à une obéissance qui sera source d'épanouissement et de communion avec notre Dieu. Il nous faut dire à ceux à qui nous faisons entendre la parole comme il nous faut nous redire sans cesse. Oui, il te faut entendre et obéir aux paroles de Dieu. L'obéissance, C'est quelque chose qui nous est difficile de vivre, n'est-ce pas ? Nous sommes par nature des créatures désobéissantes, rebelles, à qui il coûte de suivre celui qui veut nous guider. Comme l'enfant rechigne devant l'éducation parentale, comme il rechigne à obéir, de même nous faisons souvent beaucoup d'efforts pour éviter d'entendre ces appels à l'obéissance. Nous voulons suivre notre propre vie, marcher selon nos désirs, définir nos propres règles. C'est avec effort que nous acceptons d'entendre et d'obéir. Et pour cela, peut-être, le français est-il spécialement en difficulté. Heureux, dit pourtant Jean, ceux qui obéissent. Alors, deuxième point de notre réflexion, de qui vient ce bonheur qui touche ceux qui lisent, entendent et obéissent à la parole. C'est Dieu lui-même qui est la source de ce bonheur, comme il est l'auteur de cette parole que le croyant lit, entend et à laquelle il veut obéir. C'est le Dieu trinitaire qui, dans ces quelques versets, est présenté ici dans sa richesse. C'est ce Dieu trois personnes en une qui est à la fois l'auteur du message, la bonne nouvelle, le message lui-même. Nous ne pourrons bien sûr qu'effleurer ce sujet tant il est riche, mais déjà la simple lecture de ces choses ne peut pas ne pas nous toucher, nous émerveiller. C'est un tel Dieu qui est notre Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Dieu, le Créateur, le Père, qui est ici dépeint. Il y a un écho, bien sûr, dans ces mots de la révélation de Dieu à Moïse dans le livre de l'Exode. « Je suis celui qui suis. Tu diras à tes frères, celui qui est m'envoie vers vous. » Dieu est l'Éternel, celui qui seul a véritablement l'existence, qui est vie, qui est principe de vie. L'homme n'est que souffle, créature fragile, créée par Dieu, dépositaire de la vie qui lui est dispensée. Dieu, lui, est vie. Dieu ne dépend que de lui-même. Il est aujourd'hui, comme il était hier, et de toute éternité, comme il sera demain. Ce qu'il était pour Adam, il l'est toujours. Quand il se révèle à Moïse, pareillement, et il est aujourd'hui le même qui se révèle à Jean et à nous aussi. Il est le même encore qui vient. C'est lui que nous attendons. Il n'y a en Dieu, dit la parole, ni changement, ni ombre de variation. Ce qu'il dit se fait, ce qu'il promet s'accomplit, ce qu'il annonce ne tarde pas. Nous les hommes, nous sommes fragiles, passagers, faibles dans nos affirmations, nos résolutions, nos réalisations. Il est dangereux, il est aléatoire de se confier en l'homme, même dans les meilleurs et les plus fiables d'entre eux. Qui peut, parmi les hommes, donner fidèlement, assurer d'une constance dans la relation, dans l'amour ? Nous le savons, à notre dépens, mais aussi dans ce que nous vivons et ressentons dans nos cœurs même. Mais Dieu, lui, est comme il était et comme il vient. L'homme créature n'est que par référence à son Dieu, dépendant, soumis à la bienveillance de son Créateur, qui le maintient, lui et ses frères humains, en vie, par sa libre volonté, par son amour et par sa puissance. Quel contraste ! Dire que ce Dieu, le Père éternel, se soucie de nous, qu'il aime l'homme, qui s'est préoccupé du bonheur de celui-ci, et pas seulement de son bonheur immédiat, terrestre, mais de son bonheur éternel. Cela n'est-il pas étonnant ? Et pourtant, c'est bien ce qui est. Alors les sept esprits qui se tiennent devant son trône, ce chiffre 7, nous l'avons dit, qui symbolise la plénitude, la perfection, c'est tout l'Esprit de Dieu qui est présenté ici. L'Esprit de Dieu qui intervient dans l'œuvre du Seigneur pour l'homme. L'Esprit participe de l'action de Dieu pour l'humanité, pour cette action qui réjouit le croyant, celui qui lit, entend et obéit. La volonté du Père, son désir de sauver, l'action du Fils, son sacrifice, que Jean va évoquer ensuite, sont présentés au monde par l'action de l'Esprit. C'est l'Esprit qui permet à l'homme de venir vers ces choses, de se les approprier, de les comprendre, de les adopter et de leur obéir. C'est par l'Esprit que le chrétien, sauvé par le sacrifice du Fils, s'étant saisi de la grâce offerte, pourra s'approcher lui aussi du trône de Dieu. C'est l'Esprit aujourd'hui qui nous permet de comprendre l'amour du Père et du Fils, qui nous permet de nous en saisir, de nous y accrocher et d'en vivre. C'est lui qui nous a permis, entendant les paroles de la prophétie, d'y mettre notre foi, notre espérance. Il est celui qui nous présente le Fils. Ce Fils, Jésus-Christ, est le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. Témoignage fidèle, résurrection et règne caractérisent donc le Fils. Et ces trois composantes de sa personne et de son œuvre sont présentées ici aux croyants. Christ est le témoin. Et quel témoin ! C'est un témoin fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Sa parole, son témoignage peuvent être entendus. Ce ne sont pas des propos en l'air, vides de sens, mais des paroles vraies, attestées par le don volontaire de sa vie. C'est une belle chose, rare, que d'être un témoin fidèle et véridique, mais d'être un témoin engagé, prêt à confirmer ses paroles au prix de sa vie. Cela, c'est quelque chose d'unique. Il y a là une parole de force, de vérité unique dans l'histoire. Oui, la parole de Christ se trouve attestée par sa mort volontaire, délibérée sur la croix. C'est le crucifié que le croyant adore, dont il croit la parole attestée. Et c'est celui-là, le Christ, qui participe à cette promesse de bonheur dont il est l'objet. Mais Christ, le premier-né d'entre les morts, le Christ crucifié, c'est aussi le ressuscité. C'est ce Christ ressuscité que le chrétien adore et contemple, celui qui a librement donné sa vie en sacrifice et revenu à la vie. Il est vivant aujourd'hui. Sa justice, la valeur de son sacrifice ont été confirmées par sa résurrection. La mort n'a pas gardé ce témoin digne de foi dans son royaume. C'est elle qui a été défaite par le Fils. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? Tu as été défaite par le Fils. Et c'est le Fils, le ressuscité, qui est aussi l'auteur et l'objet de la foi du croyant. Ce croyant appelé à cette perspective glorieuse de sa propre résurrection. Christ est en effet annoncé comme celui qui ouvre la voie, le premier d'une longue lignée. Le premier-né, c'est à la fois le premier dans le sens chronologique, mais surtout le chef, le numéro un, celui qui porte l'autorité, celui aussi qui a ouvert le chemin vers le Père, le chemin de la vie éternelle. La résurrection de Christ est un élément central, majeur de la prophétie, du message de l'Apocalypse et du message biblique en général. Celui que nous proclamons, c'est Christ crucifié et ressuscité. Un message se disant chrétien, mais rejetant cette affirmation de la résurrection du Christ, est un mensonge digne du rejet le plus total. Toute l'Écriture affirme cette résurrection glorieuse et elle participe au plus haut degré de cette joie de celui qui lit, entend et obéit à la parole. Le règne du ressuscité, ce Fils crucifié et ressuscité, est celui qui a autorité sur les rois et sur les nations. La victoire du Christ par sa mort et sa résurrection est une victoire qui lui donne le règne et le pouvoir. Cet humble serviteur, cet agneau immolé, c'est le même qui est vainqueur et dont le règne a commencé. C'est ce triomphe du Christ que l'Apocalypse va présenter dans plusieurs tableaux et de diverses manières, toujours avec éclat et dans la gloire. Le croyant se réjouit dans le règne de son Seigneur. Oh, certes, le monde est encore en souffrance. Certes, encore la puissance de l'adversaire s'exerce pour un temps, souvent douloureusement, mais le règne de Christ Seigneur et vainqueur a commencé. Il a pu dire « tout est accompli » en obéissant jusqu'à la mort et le se faisant, remportant la plus grande des victoires, victoire manifestée publiquement par sa résurrection d'entre les morts. Il règne, celui que par l'Esprit nous adorons. Et ceux, les hommes qui pensent détenir un pouvoir, ne sont rien devant lui. Fêtus de paille, vite emportés par le vent face à sa puissance, son autorité, sa justice. Et ce règne réjouit ô combien le croyant, ce croyant qui par l'Esprit même de Dieu met son espérance dans le Père éternel qui est, qui était, qui vient, et dans le Fils mort et ressuscité. Heureux est celui que la parole de Dieu vient toucher, qui la lit, qui l'entend et qui y obéit. Dieu, dans la richesse infinie de sa personne, est la source de cette parole, de cette prophétie. Il est aussi l'objet, comme il est à l'origine, de la joie promise aux croyants, tout en en étant la cause et là encore l'objet. Il nous restera à voir une prochaine fois ce qui permet à ce bonheur d'apparaître, de se développer, de perdurer, et puis de voir précisément en quoi consiste ce bonheur. Mais nous terminerons pour aujourd'hui avec ce rappel du verset 3. Le temps est proche. Heureux celui qui entend, qui obéit. Maintenant, c'est maintenant, aujourd'hui, qu'il est encore temps de lire, d'entendre et d'obéir et de se réjouir. C'est aujourd'hui qu'il est temps de s'ouvrir à cette parole venant de Dieu. C'est un appel qui est adressé, un appel pressant, requérant une réponse rapide. La réponse doit être nôtre et s'exercer bientôt, car la parole le dit, le temps est proche. Temps du retour de Christ, temps de la fin, temps de notre mort, temps où il sera trop tard. Aujourd'hui, c'est encore un beau jour, un jour de sa grâce, un jour pour lire, pour écouter, pour entendre et pour obéir, un temps pour recevoir de la part de celui dont les attributs nous éblouissent, ce qui seul peut nous rendre heureux, un temps pour entrer dans ce qu'il a préparé pour nous et rendu possible, la paix et la grâce en lui par son Fils. Amen.